Ah ouais, super.
Il fait pas un peu chaud là, non?
Oh non, moi j'ai froid.
Attends, mais pourquoi?
L'émission Super Tempête s'apprête à commencer. Il sera question de relations affectives et de sexualité, concoctées par l'association La Panoplie, ce contenu explicite et pédagogique est notamment adapté aux adolescents. Toutefois, c'est le moment d'éloigner les oreilles trop jeunes ou bien de changer d'émission si tu n'as pas envie d'entendre tout ceci.
Ah non, merci.
Ceci dit, chers auditeurs, bienvenue.
C'est la tempête. Ah ouais, c'est super.
En fait, j'avais pas prévu de me montrer parce que votre conversation est super bizarre et embarrassante.
Non, non, stop, stop, ça va pas du tout, là.
Bienvenue à Super Tempête, une émission qui vous éclaire sur les thèmes des sexualités et des relations.
Laisse-moi me renseigner et je reviens vers toi. Okay.
Avec une approche féministe. Jouir, s'abstenir, choisir.
Continue.
Oh, waouh.
Ce que j'aime, c'est les coudes.
Super Tempête, c'est ton phare dans la tempête.
Vous voilà arrivés sur les bonnes ondes de Radio Saint-Ferréol pour la troisième émission de Super Tempête. Comme vous le savez maintenant, on se retrouve sur le 94.2 tous les premiers jeudis du mois à 21h, rediffusé le dimanche qui suit à la même heure. Cette émission est là pour éclairer certains sujets qui nous semblaient importants de mettre en lumière dans le champ des relations, des sexualités et du corps. Nous, c'est Matt, Merle et moi, Laure. Salut.
Salut. Salut.
Et nous faisons partie de la Panoplie, une toute jeune asso de Craig qui souhaite lutter contre le sexisme et les discriminations centrées autour des thèmes de la vie affective et sexuelle. Et parce qu'il est important pour nous de parler de ces sujets, de ne pas attendre l'avis des spécialistes, de mettre en commun, nous nous emparons de cet espace radiophonique pour penser et agir de manière éclairée dans nos relations. Donner à entendre des récits discrets, des témoignages, des micro-trottoirs, balancer de la chronique qui déchire et répondre aux interrogations de notre fameuse boîte à questions. Et on le redit encore, nous ne sommes pas experts-expertes, mais nous cherchons, partageons, apprenons. Donc n'hésitez pas non plus à nous contacter pour nous aider à affiner tout cela. Voici l'adresse où nous contacter, contact@lapanoplie.org. Allez, c'est parti, moi je suis ravie d'enclencher cette troisième émission de Super Tempête. Pour le thème, sachez qu'on en parle beaucoup ces derniers temps. Ça a l'air simple comme bonjour, simple comme non, c'est non. Vous le devinez aujourd'hui, nous abordons le vaste et indispensable thème du consentement.
Et oui, ces dernières années, et notamment grâce au mouvement MeToo, on est passé de « qui ne dit mot consent » à « céder n'est pas consentir » et ça fait du bien. La parole se libère et en parlant, on se rend compte que quand il s'agit de consentement, on arrive vite dans des territoires complexes qui restent encore à explorer. Alors c'est parti pour un petit tour d'horizon entre les méandres du oui et du non, en commençant par une prise de température générale avec le micro-trottoir.
Aujourd'hui 8 février, nous partons à l'assaut des rues crétoises pour demander ce que le consentement évoque aux habitants et aux habitantes. C'est parti.
Consentement, c'est quand tu es d'accord avec quelque chose?
Un accord entre deux personnes.
Déjà cette notion de consentement... C'est qu'on est... Il y a accord, effectivement.
Être d'accord,
oui.
Avec un système ou avec un projet, une question.
Je dirais que c'est l'autorisation... Une autorisation, en fait. On autorise quelque chose à quelqu'un.
Bon, visiblement, le consentement, c'est être d'accord. Mais bon, sinon, c'est quoi d'autre?
Ça me fait penser au mariage.
Ce qui m'est venu vraiment tout de suite à l'esprit, c'est le mot mariage.
Le consentement, quand on est d'accord pour avoir des relations sexuelles ou non.
La question du consentement, c'est la question justement de la capacité de pouvoir dire non, peut-être, je sais pas, on verra, pas maintenant, ou pas du tout, mais voilà.
Le consentement, pour moi, c'est d'abord le problème des femmes. C'est un énorme problème. Et puis après, je pense aussi qu'on doit demander le consentement des enfants, si possible. Si on n'est pas des prédateurs, on ne doit jamais, jamais, jamais forcer quelqu'un. Pour moi, c'est ça le consentement.
Et est-ce qu'il y a des domaines en particulier où, pour vous, le consentement, c'est vraiment important?
Pour un couple, des projets.
Oui.
Il faut le consentement des deux pour faire un projet de vie.
Dans tout, dans le domaine du travail, dans la relation de couple, dans l'amitié. Ça peut être aussi, pourquoi pas, politique.
Est-ce qu'on accepte, je ne sais pas moi, la retraite en ce moment? Est-ce qu'on accepte la guerre en Ukraine?
Le consentement, c'est vrai que ces derniers temps, on en a plus entendu parler au niveau des enfants, du consentement sexuel, du consentement, voilà, au niveau de l'âge. Et c'est vrai que bon, c'est un peu dans tout consentement. Moi, je sais aussi dans mon travail. Je suis auxiliaire de vie, donc le consentement des personnes, quand on leur fait des actes, ne serait-ce que les emmener aux toilettes, leur faire un change, tout ça, c'est quelque chose d'important.
Ça me fait penser à la sexualité. On parle du consentement dans la sexualité, que genre on fait pas de sexe s'il y a pas de consentement. Et en même temps, c'est une notion un peu, assez vite, c'est un peu quand on creuse que c'est le consentement, c'est pas si évident parce que consentir, c'est un peu finir par accepter. Donc, je sais qu'il y a ce slogan « céder n'est pas consentir », mais consentir, on a l'impression parfois c'est un peu une concession. Donc voilà, je trouve que c'est pas si évident. Enfin, c'est super important évidemment de poser l'idée qu'il faut du consentement. Et en même temps, qu'est-ce qu'on entend exactement par consentement ? Enfin, on peut dire oui un peu en se forçant à dire oui. Enfin voilà, je trouve qu'il y a plein de trucs assez compliqués.
On a pu entendre des personnes dire « Ah, mais on entend parler tout le temps du consentement, là c'est bon, on en a marre. » Est-ce que vous pensez que c'est toujours important que cette notion elle soit explicitée encore ?
Ah oui, non, mais c'est toujours important, même au niveau des enfants. Moi, je leur explique tout le temps que pour tout, on doit leur demander leur avis. Ne serait-ce que faire un bisou à quelqu'un, voilà, s'ils n'ont pas envie, ils n'ont pas envie, il ne faut pas les forcer.
Déjà, je sais que c'est un truc extrêmement important, le consentement. C'est qu'il y a des personnes qui respectent plus ou moins.
C'est jamais fini. Je pense que, en tout cas, en priorité, les femmes, elles ont encore à se battre. Vraiment, vraiment, vraiment. Il y a vraiment longtemps, en plus. Il y a toujours des retours en arrière, l'avortement qui n'est pas accepté. On a tout sur nous.
Il paraît que c'est pas si facile.
De consentir ?
Oui. De pas consentir.
Nous, à notre âge, notre génération, elle sait dire non. Moi, je sais dire non.
Les hommes et les femmes savent dire non de la même façon.
Une femme, elle dira plus souvent oui, je pense. Elle se laisse plus facilement influencer.
Je sais pas. À notre époque, je pense que la femme, elle réagit plus que dans le temps. Oui.
Après, c'est sûr que savoir dire non, c'est pas si évident, quoi. On n'a pas forcément,
et pour vous,
culturellement, une facilité à dire non. Dans la société française, on nous a appris à l'école à toujours dire oui ou sinon à rien dire.
C'est vraiment en lien avec savoir où mettre sa limite et ne pas être trop influencé par l'autre, enfin savoir ce qu'on veut au final. Ce qui n'est pas facile parce qu'on ne sait pas forcément ce qu'on veut tout le temps. Donc ce consentement, il demande de faire une pause. Attends, je vais réfléchir un peu.
Purée, alors moi je suis quelqu'un qui donne mon consentement mais qui a intérêt à être entendu. Donc si moi mon consentement il est très clair et quand je veux pas, je veux pas. Ça crée des tensions et je fais avec.
C'est la question de positionnement et ça c'est une histoire d'éducation pour les garçons, pour les filles, pour tout, voilà.
Et pour vous, c'est facile du coup ? Enfin...
Je me suis entraîné à apprendre à dire non. Mais après, c'est jamais acquis. Parce qu'il y a la question du trouble, la question de l'émotion, où il y a des moments où on ne sait juste pas, on veut faire plaisir à l'autre, mais on ne sait pas soi.
Aussi, c'est le langage du corps. Parfois, on est plus à l'aise dans le langage du corps que justement le langage intellectuel. Et pas toujours à sa place non plus. Mais le consentement, ça passe aussi... Enfin, l'autre devrait savoir lire le langage du corps. C'est pas forcément la parole, en fait. C'est aussi l'attitude qu'on a. Et que l'autre respecte ça, ouais.
Ouais, super intéressant. C'est marrant, moi, j'avais en tête que des trucs de consentement sexuel en préparant cette émission. Et en effet, en fait, ça touche plein d'endroits. Et on voit que c'est dur de dire non, quoi. Ouais, c'est pas du tout ce qui est sorti en premier, la sexualité. Et en effet, il y a eu plein de choses, des fois même des gens qui se contredisaient les uns les unes les autres dans le micro-trottoir. Donc on se disait que peut-être nous, avant d'aller plus loin, on pouvait reposer des bases avec une petite redéfinition du consentement qui nous va bien. Déjà, le consentement, pourquoi ? Dans la vie quotidienne, demander le consentement de l'autre, son accord, son approbation, ça nous permet d'éviter d'entreprendre des actions qui pourraient lui déplaire, voire lui nuire complètement. Donc, respecter le consentement de l'autre ou son refus, c'est respecter les limites de son bien-être. Il s'agit d'un processus en constante évolution, dans lequel chacune est libre d'accepter, de refuser ou d'arrêter une activité quand elle le souhaite, quelle que soit la nature de l'activité. Et alors, pour que le consentement soit effectif, il doit être
clair. Il est donné par un oui clair de la part de tous les partenaires. Une absence de refus n'est pas un signe de consentement, contrairement au célèbre adage français « qui ne dit mot consent ».
Il doit être aussi
enthousiaste. La personne doit avoir répondu oui, tout en manifestant d'autres signes d'envie. Cela peut, par exemple, inclure la communication non verbale, un sourire, un visage heureux et détendu, une gestuelle entreprenante et ouverte.
Il doit être libre.
Le consentement se donne de manière libre, c'est-à-dire sans pression ou manipulation pour céder. Pour que les personnes puissent dire non, les relations de pouvoir doivent être équilibrées et les personnes doivent se sentir en sécurité.
Le consentement doit être aussi éclairé.
Il se donne par une personne consciente, éveillée, et il faut aussi se poser la question, est-ce que mes partenaires aurait-il, elle, accepté si elle était sobre ?
Il doit être révocable.
Il peut être retiré à n'importe quel moment de l'activité. En d'autres termes, chacune peut changer d'avis à tout moment, y compris après avoir déjà dit oui.
Et enfin, il doit être spécifique.
Le consentement n'est pas un accord définitif. Si une partenaire consent à une activité, cela ne signifie pas que c'est un accord pour toutes les pratiques et pour toutes les fois suivantes.
Déchets dans mes doigts.
Petite de Meryl et Rachel Allison. Et avant d'aller plus loin dans l'émission, on voulait préciser que, comme c'est une émission sur le consentement, il va être question notamment de situations de non-respect du consentement et par exemple de viol. Donc si vous ne vous sentez pas prête à continuer plus loin, et bien n'hésitez pas à changer de station. En tout cas, nous, on continue dans Super Tempête avec la boîte à questions. Matt, on t'écoute. Oui, la boîte à questions, cette fois-ci, on l'a donnée à des proches. Du coup, c'est des personnes de entre 25 et 50 ans. En gros, on l'a envoyée par Internet et on a eu pas mal de questions autour du consentement. Et la première, c'est...
Est-ce que si je n'ai pas trop envie, mais je me force et que l'autre ne le sait pas, est-ce que c'est un viol ?
Ben, dans la loi, pour rappeler, le viol, c'est un acte de pénétration sexuelle commis avec violence, contrainte, menace ou surprise. Là, dans ta question, je sens que ben, y a de la contrainte. Après, ça me pose la question de d'où vient cette contrainte. Est-ce que c'est toi qui te la mets ? Est-ce que c'est ton ou ta partenaire qui te la met de manière insidieuse ? Voilà, en gros, pourquoi est-ce qu'on se force ? Et aussi, je me dis que peut-être des fois on se force parce qu'on a en tête des normes, par exemple, qui diraient que les hommes ont plus de besoins sexuels que les femmes. Voilà, j'avais envie de dire aussi que ben, déjà ça c'est faux, ultra faux. Il peut y avoir des différences de désir entre les partenaires. Ça oui, et c'est même plutôt courant, mais c'est pas lié à leur genre. Je me dis aussi que si tu te forces, peut-être que ça vient dire des choses sur la relation en elle-même. Du coup, ça me donne envie de te poser la question de... Comment ça se passe pour toi dans cette relation ? Est-ce que tu sens que tu as l'espace d'exprimer tes besoins ? Est-ce que l'autre est à l'écoute ? Est-ce que tu peux dire que tu n'as pas envie d'un rapport sexuel ? Et qu'est-ce qui se passerait si tu le fais ? Voilà, ça me donne envie de te poser ces questions.
Ouais, sur cette première question, y a la question de est-ce que c'est un viol ou pas ? Et c'est vrai que comme le consentement, il y a cette espèce de zone grise qui intervient à plein d'endroits, ben, parfois on ne sait pas bien c'est quoi les mots à mettre dessus. Et ce que je me dis, c'est que le plus important, c'est de mettre les mots qui nous conviennent à nous. Si ça te fait du bien de pouvoir dire que c'est un viol, ben, je pense que c'est important que tu puisses le nommer comme ça. Et si en fait, ce n'est pas quelque chose qui te fait du bien et que toi, tu le vois différemment, ben, fais-toi confiance et empare-toi des mots qui te font du bien.
Et la deuxième question...
Est-ce que dire oui à un rapport sexuel pour avoir la paix, c'est quand même consentir ?
Merci beaucoup pour cette question, parce que je l'ai beaucoup entendue. Du coup, je suis contente qu'elle apparaisse dans cette émission. Voilà, tu as choisi d'avoir un rapport sexuel pour avoir la paix. Ce que je me demande, c'est à quel point tu avais le choix, à quel point c'est un choix compliqué, quand il y a des fortes injonctions à avoir des rapports sexuels dans la société dans laquelle on vit. Je me dis que c'est vraiment pas facile parce que en plus de vivre un moment désagréable ou très désagréable ou voilà ou même peut-être horrible, on peut avoir aussi une petite voix qui nous dit ah c'est pas bien de se forcer, tu te respectes pas, il faut pas faire du sexe si on en a pas envie. Du coup ça me fait l'impression d'une double peine de ok on vit un moment vraiment pas cool et en plus après on a la culpabilité de pas avoir dit ce qu'il fallait, de pas avoir su arrêter le rapport. Voilà, j'avais juste envie de dire que c'est vachement dur cette double peine et que c'est un peu dégueulasse aussi que la culpabilité, elle aille à la personne qui a cédé alors que ça devrait aller à la personne qui a pas su voir que l'autre se forçait ou qui a pas voulu voir que l'autre se forçait ou à la société qui met des fortes injonctions au rapport sexuel pour soi-disant prouver notre amour ou je sais pas quelle connerie du genre. En tout cas, elle devrait pas du tout, cette culpabilité, aller à la personne qui a cédé pour avoir la paix. Et ce serait idéal de pouvoir, ce serait bien de pouvoir communiquer, de pouvoir dire à l'autre qu'on ne veut pas un rapport sexuel, d'avoir l'espace d'écoute en face aussi pour pouvoir le dire. Ça, c'est sûr, c'est bien de pouvoir communiquer pour pas que ça arrive. Mais voilà, des fois, on fait comme on peut. Et la troisième question, c'est...
Dans ma sexualité avec ma ou mon partenaire, dès qu'elle change son comportement... Par exemple, si elle respire moins fort, je lui demande si ça va, si elle veut continuer, changer, arrêter. Mais j'aimerais bien trouver d'autres manières de vérifier que tout va bien et que tout ce qui se passe est exactement ce qu'elle a envie, sans forcément passer par le verbal. Bref, ma question c'est comment checker le consentement de l'autre à ce qui est en train d'être fait sans forcément verbaliser.
Ben, comme tu l'as dit, pour rester dans le corps et respecter le consentement de l'autre, on peut écouter le non-verbal. Les respirations, les sons émis, les gestes. Déjà, on peut avoir pas mal d'éléments pour éviter des situations de non-consentement. Mais je ne sais pas si c'est possible à tous les coups. Je crois qu'on est obligé de verbaliser à un moment. Rien que, par exemple, pour pouvoir comprendre le non-verbal. Il y a des personnes qui vont faire le son pour qui ça va vouloir dire « Ah là là, je prends un max de plaisir !» Et il y en a d'autres pour qui ça va vouloir dire « J'ai peur » ou « J'ai mal ».
Du coup, c'est bien de verbaliser à un moment. Ça, ça peut se faire en dehors du rapport sexuel, évidemment. Et puis, voilà, on n'a pas tous et toutes le même langage non-verbal. Il faut le décrypter ensemble. Et ça passe par les mots. Voilà, il y a des moments, j'ai l'impression, où le non-verbal, il va suffire et d'autres où ça ne suffit pas. J'ai l'impression qu'une piste, c'est peut-être de jongler entre les deux. Et de, quand on a un doute que le non-verbal ne suffit pas, ben, de verbaliser. Et puis je me dis aussi peut-être qu'il y a un truc à lâcher sur faire parfaitement ce que l'autre attend. Je crois pas qu'on puisse faire exactement ce qu'elle désire et au juste moment on n'est pas dans sa tête et puis nos désirs ils changent d'une seconde à l'autre, du coup je crois que c'est peine perdue de vouloir faire ça. Puis après ça m'a questionné le truc du verbal qui fait remonter au cerveau, en effet il y a un truc qui nous sort un peu du corps. Et je me demande à quoi c'est dû. Moi, par exemple, ce qui me fait revenir au cerveau, j'ai l'impression que c'est quand je me pose la question de « Ah, est-ce que je lui dis ou pas ?» ou « Comment je lui dis ?» Enfin, un truc d'auto-jugement et j'ai l'impression que si je dis ce qui me traverse sur le moment, alors ça remonte moins au cerveau, ça reste plus corporel. Et je me dis aussi que si on prend l'habitude de ça, alors ça deviendra de plus en plus naturel et ça fera moins monter au cerveau, sera plus dans un truc corporel. Mais voilà, ça c'est une hypothèse. Et puis, je crois aussi que des fois, il y a des moments où ça se passe avec beaucoup de consentement, les rapports sexuels, et sans avoir besoin de verbaliser. C'est vrai, ça arrive. Et j'ai l'impression qu'on a envie que ce soit toujours comme ça, si on a déjà eu cette expérience-là. Parce que, ben oui, c'est trop bien, ça aligne nos fantasmes que ça se passe comme dans les films, où tout a l'air si évident, si fluide entre les partenaires, sans avoir besoin de parler. Et en même temps, notre forte envie de respecter le consentement de l'autre. Et ça, pareil, je crois pas que ce soit possible à tous les coups. C'est comme d'avoir envie que ce soit toujours méga jouissif, nos rapports sexuels, que ce soit comme cet orgasme qu'on a eu l'été dernier où tout notre corps a tremblé de plaisir. Mais voilà, ça peut pas toujours être comme ça. Il faut aussi lâcher quelque chose, là, je crois. Quelque chose d'un acte sexuel idéalisé et d'accepter que parfois ben, c'est super et parfois c'est juste bien et c'est ok, qu'on peut pas avoir des feux d'artifice à tous les coups et peut-être c'est mieux comme ça d'ailleurs parce que sinon on serait fatigué, épuisé. et parfois le consentement et le plaisir de tous les partenaires c'est compatible et parfois non, du coup ça pose la question de qu'est-ce qu'on fait comme choix. Et bon, moi je crois que faire le choix du consentement c'est toujours une bonne idée et le méga orgasme qu'on voulait ben, peut-être on l'aura la prochaine fois et c'est ok. Parce que nous respecter mutuellement, c'est important, ça resserre nos liens et c'est super jouissif, ça aussi.
Merci, Matt, pour ces réponses à la boîte à questions. Merci aux personnes qui ont posé les questions, c'était vraiment super intéressant. On continue. En préparant cette émission sur le consentement, je suis tombée sur un texte fraîchement écrit par Samaëlle. C'est un peu l'histoire de la puissance d'un nom qui revisite le passé. Elle nous a donné son accord pour le diffuser et on va l'écouter lu par Aurore Magnier.
Et voilà. Il en aura fallu du temps pour que ce qui se rejoue en rêve aille plus loin que la réalité froide. Cette nuit, 30 janvier 2023, dans le long rêve qui me faisait encore revivre l'emprise et le viol, j'ai brisé quelque chose, je crois. J'ai réussi à te dire non, à te dire stop, end of the road. Quand je t'ai dit non, cette nuit dans le rêve, quand je t'ai dit non, tu as repris une taille humaine. Et j'ai pu voir par-delà tes épaules. Et pas simplement, comme d'habitude, ton corps massif, obstruant tes clavicules solides que les ingénieureuses et les CRS sont venus prendre en photo pour dessiner et produire les matraques. J'ai pu voir au-delà de tes épaules. J'ai pu voir la ville. J'ai pu voir les arbres. J'ai pu voir les animaux inquiets. J'ai pu revoir le monde. Quand je t'ai dit non, j'ai senti tes cheveux arrêter de pousser et ton sang devenir maigre. Quand je t'ai dit non, j'ai senti certains neurones muets en moi se remettre à bourgeonner et un arc électrique à nouveau se faire entre mes pieds et ma tête. Quand je t'ai dit non, j'ai vu que dans le fond des fossés, les branches mortes murmuraient « Ça sent le feu, ça sent le feu ». Et j'ai aperçu rapidement le visage de mes grands-parents. Entre le monde et toi, le visage de mes parents, entre le monde et toi, me remercier de vivre. Une voiture part tout à l'heure, pour septembre 2004. Et dans le rêve que je vais faire cette nuit, je sais que tu feras du stop. Je m'arrêterai, tu monteras, on ne discutera pas, simplement, je te dirai non. Il faudra le hurler peut-être, faire claquer la boîte à gants, klaxonner, triompher. Il faudra le chuchoter aussi, que ça rentre aussi par les petites portes. Il faudra le dire simplement, que ce soit quotidien, que ce mot soit simple comme « bonjour », mais qu'il ne perde pas son sens. On revisitera tous les lieux qu'on a traversés, toutes les pièces, toutes les rues, toutes les forêts, tous les villages, et je te dirai « non ». Toi, tu ne parleras pas. Simplement, je te dirai non. Tu écouteras. Moi, simplement, je te dirai non. On ne réparera rien. Too late. On rendra ce bout de passé habitable. Puis, je repartirai vers le 31 janvier 2023, avec l'espoir mordant d'avoir mis le feu au plus atroce souvenir. Je te déposerai chez toi. Je ne monterai pas. Je ne klaxonnerai pas, on ne discutera pas, j'aurai baissé la vitre, simplement je te dirai non. Je rallumerai les phares et je repartirai vers demain matin, un œil dans le rétroviseur pour ne rien perdre de tout ce qui brûle, de tout ce qui dans le passé brûle enfin. T'inquiète pas pour moi, j'ai avec moi des kilos d'amour, de joie, de tendresse, des litres de kétoprofène si besoin, ne t'inquiète pas pour moi. Inquiète-toi pour toi. Non. Je rigole. Trouve-toi une autre planète. Va planter des fraises.
C'était un petit bout de It's Time to Wake Up 2023 de La Femme.
Et on passe tout de suite à une petite interview de Amine qui nous parle de BDSM.
Depuis que je pratique le BDSM, j'ai vraiment capté des enjeux par rapport au consentement que je n'avais pas forcément capté en pratiquant le sexe vanille. Je rajoute un autre terme et du coup je reviens sur les deux termes. Du coup, le BDSM, c'est Bondage, Domination, Sadomasochisme. Et du coup, ce sont des pratiques sexuelles qui utilisent la douleur, la contrainte, les jeux de rôle, la domination et la soumission. Ce qui vient en opposition, c'est la sexualité vanille, qui, elle, est plutôt considérée comme une sexualité simple, plutôt conventionnelle. Et du coup, ben, c'est vrai que... Le consentement, il est hyper important dans le BDSM parce que, bah, étant donné que les pratiques sont des pratiques qui peuvent aller très loin dans la douleur ou la contrainte,
on va souvent, on parle de contrat qu'on va établir entre les différents partenaires qui vont pratiquer le BDSM. Lorsqu'on établit le contrat, on va faire ce qu'on appelle la négociation. Donc la négociation, c'est une pratique très courante qu'on fait avant le jeu. Et donc la partie négociation, c'est la partie où on va pouvoir se dire quelles pratiques on aime, quels sont nos triggers, donc quels sont les choses qu'on ne veut surtout pas faire. Ça va être se mettre d'accord sur une codification qui va nous permettre de communiquer tout au long du jeu ou des différentes pratiques, qui peut être par exemple taper deux fois sur le sol ou sur un matelas. Ça veut dire je veux arrêter la pratique qui est en cours ou la changer. Et on va aussi se mettre d'accord sur ce qu'on appelle le safe word, qui peut être n'importe quel mot, qui peut être stop, qui peut être code rouge. Et à partir du moment où un ou une des participantes va mettre en place ce safe word, utiliser ce safe word, là le jeu est terminé. Et là on va passer à ce qu'on appelle l'aftercare, donc qui est un moment aussi très 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 important dans la notion du consentement toujours. Parce que malgré qu'on ait établi un contrat clair, qu'on ait fait une super bonne négociation, il se peut qu'au cours de la pratique, les envies changent, que finalement, je me rends compte que je suis plus fatiguée que ce que je croyais, que mon rapport à la douleur, il est pas comme je l'attendais. Et du coup il est possible que j'utilise quand même le fait de taper deux fois. Et donc, ça va être important à la fin de pouvoir se dire, voilà, j'ai tapé deux fois alors qu'on s'était dit d'accord pour, je sais pas moi, du martinet et que finalement, j'ai tapé deux fois alors que c'était le martinet. Et du coup, pendant l'aftercare, on va pouvoir se dire, bah voilà, finalement, je me sens fatiguée, mais rien à voir avec toi. Ou au contraire, j'ai pas aimé la manière dont t'as fait quelque chose pour pouvoir ne pas rester avec des émotions un peu négatives et pour refaire une autre pratique à un autre moment dans de meilleures conditions.
Est-ce que t'as l'impression que dans les autres pratiques que le BDSM, c'est aussi présent le consentement ?
Moi, j'ai l'impression que, je parle pour mon expérience, c'est moins évident dans le sexe que je dis vanille. Ben, dans ces pratiques-là, j'ai l'impression que c'est moins évident parce que souvent, d'ailleurs, pour ma part, c'est un sexe que je vais, enfin, une des pratiques sexuelles que je vais effectuer avec un ou une seule partenaire, alors que le kinky BDSM, c'est des pratiques plus collectives, du coup, qui vont nécessiter un cadre. Alors que quand on est dans la sphère privée, on va partir du principe que le cadre, il est déjà là parce qu'on se connaît, parce qu'on a confiance l'une en l'autre. Et du coup, je trouve que c'est un peu plus dangereux parce qu'on va partir d'une certaine forme d'évidence. Et qu'en fait, il n'y a pas d'évidence, que ça n'existe pas et qu'il n'y a pas non plus d'environnement safe. Le safe n'existe pas. Le safe, il se construit et il a toujours des risques. Et du coup, par contre, j'essaye quand même... En effet, de garder ça en tête, le avant, pendant, après. J'ai plus de facilité à faire le pendant et l'après. Le pendant à travers des « non, là, j'aime pas, là, plus fort, là, moins fort, plutôt ici, plutôt comme ça », avec tout ce qui est communication non-verbale aussi, pousser la tête, pousser la main, faire comprendre à l'autre que faut que ça s'arrête ou que, que ça change. Et demander, bien sûr, à la fin, comment ça s'est passé pour toi, est-ce que t'as kiffé. J'ai l'impression qu'il y a encore du boulot sur la partie en amont, parce que souvent, y a le petit malaise, le sexe n'a pas encore commencé, d'en parler, mais est-ce que l'autre, il en a envie ? Bah, en fait, ça peut être justement, tiens, moi, là, j'ai envie de faire du sexe avec toi, est-ce que toi aussi ? Et qu'est-ce que t'aurais envie de faire comme pratique ? Mais ça demande un peu plus de cran.
Super ce témoignage assez précieux, je trouve, qui vient montrer un endroit où le consentement c'est très codifié et c'est pas forcément un truc qui casse l'ambiance. Voilà, moi je mets ça dans ma petite poche. Vous écoutez toujours Super Tempête sur Radio Saint-Ferréol. Le thème du jour c'est le consentement, vous l'aurez peut-être compris. Et là, maintenant, tout de suite, now, c'est le moment de la chronique de Merle.
Merci Laure. Alors, ce mois-ci, en allant interroger les passants et les passantes pour le micro-trottoir, j'ai été frappée par le nombre d'hommes qui n'étaient pas du tout gênés de nous déclarer que non, ils n'avaient aucun problème en lien avec le consentement, que c'était très facile pour eux de dire non. D'ailleurs, non c'est non, tout simplement. Pourquoi cette question ? Et pendant qu'ils reprenaient tranquillement leur route, je me demandais, mais comment c'est possible que pour eux ce soit si évident, alors que pour d'autres, on est obligé d'écrire non c'est non sur les murs de nos villes par désespoir d'être enfin entendus ? Comment peuvent-ils ne pas se rendre compte que ce qui pour eux est un simple mot parmi d'autres, un acte du quotidien, devient pour tant d'entre nous une épreuve de force, un refus si difficile à opposer, voire impossible parfois ? Je ne suis pas spécialiste, mais je suis quand même assez sûre que nous ne sommes pas victimes d'une étrangeté génétique qui nous rendrait moins capables d'articuler le son « non ». Écoutez donc, Agamemnon, faux nom, surnom, Madame de Maintenon, demandez-moi mon pronom. Alors je me suis plutôt dit, et si le non était en fait un produit de luxe ? Pouvoir dire non, c'est comme s'acheter une Rolex, tout le monde n'y a pas accès. Sauf que pouvoir dire non, ça peut vous sauver la vie, alors que la Rolex, à part donner l'heure et l'air d'un connard, ça sert pas à grand chose. Car oui, dans la liste des droits auxquels l'accès n'est pas équitablement réparti, je pense qu'il y a le privilège de pouvoir dire non. Quand on parle d'égalité pour les personnes minorisées, on imagine l'accès à un meilleur traitement dans la société. Mais comment l'obtenir alors qu'actuellement, on n'a même pas accès à la possibilité de refuser d'être maltraité ? La possibilité de dire non quand t'es une actrice asiatique et qu'on te propose que des rôles de geisha sans avoir peur de plus avoir de boulot. La possibilité de dire non quand ton patron te demande de servir les cafés alors que t'es directrice de service et d'avoir le soutien de tes collègues. La possibilité de refuser qu'un inconnu pousse ton fauteuil roulant sans ton consentement et de pas te faire traiter d'ingrat. La possibilité de recadrer ta médecin qui te parle de ton poids quand t'es venu pour une grippe sans craindre de pas te faire soigner après. Tout simplement et pleinement, la possibilité de ne pas accepter l'inacceptable sans devoir le payer. Parce qu'ils sont bien gentils ces hommes qui n'ont pas de soucis pour dire non, mais on dirait qu'ils se rendent pas très bien compte que la différence entre eux et des personnes moins favorisées, c'est qu'ils ont le choix, des vrais choix dans des situations où qu'ils disent oui ou non, ils n'y perdront rien, ni leur intégrité physique, ni leur intégrité morale, ni leur privilège. Ah bah ouais, t'es pas vraiment libre de dire non à ton mari violent quand tu en es dépendante financièrement, ni vraiment libre de dire non à la personne qui te demande si elle peut toucher tes cheveux crépus quand c'est aussi ta patronne. Aujourd'hui, être libre de ses choix, c'est un privilège ultime. Et cette soumission forcée est tellement solide qu'on intègre totalement ce qu'on se doit d'accepter. Dans une enquête menée par Nous Toutes il y a 3 ans, on pouvait lire que dans le cadre du couple hétéro, 70% des femmes déclaraient avoir eu des rapports sexuels alors qu'elles n'en avaient pas envie, sans pression du partenaire. Attention, je vous vois monter sur vos grands poneys pour dire « bah voilà, c'est de leur faute alors » et je vous arrête tout de suite. Dans l'enquête, 9 femmes sur 10 déclaraient avoir déjà ressenti de la pression de leur partenaire pour avoir un rapport sexuel et près d'une femme sur 2 avoir déjà subi des propos dévalorisants parce qu'elle n'avait pas envie d'avoir des rapports. Oups, c'est pas si simple après de pas se sentir obligée. Peut-être les conditions optimales pour pouvoir dire non ne sont pas vraiment réunies. Alors on se bat encore et encore pour cette liberté de refuser, cette liberté qui change tout, mais ça va pas aboutir si on continue d'entendre « Ah bon, mais pourquoi elle a pas juste dit non si elle avait pas envie ?» au lieu de « Mais pourquoi il l'a forcée si elle avait pas envie ?» Ça va pas aboutir tant qu'il y aura des grands pontes du refus pour parler de travail à faire sur soi-même et de développement personnel et pour tenir des discours culpabilisants ambiance « Tu n'arrives pas à affirmer tes choix car tu n'es pas en communication avec ton toi profond. » Il est temps pour elle de passer au stage de pleine conscience, jus de légumes et s'apprendre collectivement qu'on n'a par exemple pas le droit de commenter le physique d'une personne sous prétexte qu'elle est grosse. Ça va pas aboutir si pour chaque situation où on se rend compte individuellement qu'on a la liberté de dire non, on ne se demande pas qui autour de nous ne l'a pas et comment on peut la lui donner. Et ça ne va pas aboutir non plus si les choses restent organisées pour que nous n'ayons pas droit à la protestation. Parce que 1% des violeurs condamnés en justice, ça envoie pas tellement le message que c'est possible de s'opposer et d'obtenir gain de cause. Des dénonciations d'oppression qui mènent les victimes à l'opprobre, c'est pas un exemple d'acceptation de leurs paroles. Alors en bref, pour terminer, Darmanin, dégage ! Anne Sylvestre, reviens nous chanter Douce Maison et travaillons tous de notre regard et nos postures afin de permettre aux personnes qui nous entourent de s'emparer de la force que c'est de pouvoir dire « Non, je ne veux pas de ça, je veux mieux que ça » et qu'on leur réponde tout simplement « D'accord. »
Waouh !
Oh là là, mais de mieux en mieux ! Merci Merle.
Oh, merci. Et ouais, cette chronique, ça me fait penser à des questions de la boîte à questions. Il y avait plusieurs questions autour de qu'est-ce qui se joue dans le consentement quand on ne vit pas les mêmes oppressions. Voilà. Avant de parler de ça, je vais me situer. Je suis une meuf cisgenre, blanche et valide. Il y avait une question plus spécifiquement sur quand on relationne avec une personne trans et qu'on est une personne cis, qu'est-ce qui se joue dans le consentement ? Du coup, ben, j'avais envie d'en dire quelques mots. Il y a des brochures qui disent beaucoup plus d'infos. Je ne vais pas avoir le temps de dire tout ça. Mais oui, il y a des choses liées au corps qui se jouent quand on est une personne trans. Par exemple, si on est une personne trans et qu'on prend des hormones, ben, il peut y avoir des zones de notre corps qui deviennent plus sensibles à la prise d'hormones, d'autres qui deviennent moins sensibles. Du coup, ben, ça, c'est des choses qui sont bonnes à savoir. Mais aussi, sans parler de prise d'hormones, quand on est une personne trans et qu'on est dans un rapport sexuel, ben, peut-être il y a des positions qui sont dans notre imaginaire très genrées, dans l'imaginaire collectif très genrées, et qu'on se retrouve à un poste ou à un autre, ben, peut-être il y a des moments où ça peut faire de l'euphorie de genre. L'euphorie de genre, c'est un sentiment de bien-être, un truc confortable lié au fait d'être respecté dans son genre ou d'être capable d'exprimer son genre. Et puis aussi, il y a d'autres positions où peut-être ça va nous faire de la dysphorie de genre. La dysphorie de genre, du coup, c'est l'inverse de l'euphorie de genre. Voilà, il y a des choses qui se jouent que les personnes cisgenres ne vivent pas, qui sont vécues par les personnes trans. Voilà. Et en même temps, de bien se rappeler que tout ça, c'est de la théorie et que chaque personne est experte de son propre corps et que du coup, bah, en fait, c'est bien de se parler, de se poser la question. Il y a par exemple, dans la brochure « Vie sexuelle et transidentité », à la fin, il y a des petits jeux. Et il y en a un, par exemple, où il y a des mots de description de corps. Et il faut entourer celle qui nous parle pour notre propre corps et barrer celle qui ne nous parle pas. Par exemple, il y a... pénis, poireau, thorax, tété, boobs, le truc d'en bas, vulve, vagin, néo-vagin. Voilà, et il y a plein d'autres petits jeux. Je vous conseille d'aller voir cette brochure et d'aller à la fin faire ces petits jeux. Je mettrai le lien dans la page de l'émission pour que vous puissiez y accéder. Voilà, ça peut être chouette aussi de se demander avant un rapport, est-ce qu'il y a des parties de ton corps que tu préfères que je touche pas ? Voilà quelques pistes, mais il y en a plein d'autres à aller voir cette brochure et d'autres qui traînent sur Internet. J'avais aussi envie d'aborder la question de la fétichisation. La fétichisation, c'est le fait d'objectiver sexuellement des corps minorisés, comme des corps des personnes trans par exemple, mais aussi des personnes racisées, des personnes grosses, des personnes handicapées, toute personne que la société considère comme pas dans la norme. Voilà, c'est le fait de plaquer des clichés sur une personne et du coup de transformer un individu en généralité. Du coup, ça peut se traduire dans des rapports sexuels par mettre toujours la personne à jouer un rôle spécifique, de rentrer en interaction de manière spécifique et de jamais sortir des scripts qui ont été définis et qui sont définis d'après des clichés. Il y a un super podcast de Kif Taras, très intéressant là-dessus, qui s'appelle « La geisha, la panthère et la gazelle ». Je vous le recommande, il est vraiment super. Ça va vraiment finement dans qu'est-ce que c'est la fétichisation des corps racisés. C'est très, très intéressant. Je vous mettrai aussi le lien dans la page de l'émission. Voilà, du coup, ça me semble important d'être conscient que ça existe, la fétichisation, et que si notre partenaire... subit de la fétichisation, bah, c'est cool d'être au courant de comment ça fonctionne pour ne pas reproduire ça. Et puis voilà, bah, oui, suivant les oppressions qu'on subit, les privilèges qu'on a, notre rapport à notre corps, il est différent parce que la société calque des choses sur nous et du coup, notre rapport à notre corps est modifié suivant ce qu'on vit comme oppression. Et c'est important d'être à l'écoute de ce que son ou sa partenaire vit comme oppression et que nous, on subit pas, de surtout pas les minimiser et d'être à l'écoute.
Allez, on veut encore un peu de son dans Super Tempête. Allez, là, on ose un troisième morceau de musique. C'est un morceau qui date de 2019, qui s'intitule LT. Et qui illustre bien ce que peut être le harcèlement. Donc on écoute une auteure, compositrice et interprète aux mots tranchants et percutants. Il s'agit de Suzanne.
Tu vas au boulot, tu marches seule. À la hauteur du H&M, y'a un type qui gueule. Hey, salut, bonne meuf, t'es vraiment très charmante. Tu sais, je te mangerai pour le 4 heures. T'es si appétissante, je te ferai pas la bise, mais si tu veux, on peut baiser. Moi, les petites meufs comme toi, j'en ferai qu'une bouchée. Ben pourquoi tu marches plus vite? Je t'ai pas agressé, je t'ai même fait des compliments. Tu pourrais au moins t'arrêter. Comment ça, t'as pas le temps? Et t'es pas célibataire, tu sais. Moi, je suis pas jaloux, viens dans mon lit, ça va te plaire. Aussi, faut arrêter de te plaindre. Là, tu l'as bien cherché. T'as une jupe tellement courte, même pas besoin de la soulever. Les filles comme toi, c'est dangereux. Pire que le mal incarné. Et c'est moi que l'on accuse de me comporter en chimpanzé. Souffle, serre les dents. Comme d'hab, tu te tais.
souffle, sois prudente, marche sur le trottoir d'à côté, t'es une pouffe, c'est devenu courant de l'entendre trois fois par journée, t'as un hume, peut devenir violent si tu donnes pas le vrai, bats-toi fille. T'es au boulot dans la réserve, tout le monde est parti manger. Le patron t'appelle dans son bureau. Deux minutes pour discuter. Salut Caro, aujourd'hui t'es ravissante. J'aimerais t'inviter à dîner un soir où ma femme est absente. Ouais, je sais que t'as un mec, mais ça c'est pas gênant. Ton joli décolleté me dit que t'es plutôt partante. On pourrait faire ça ici, tout le monde est parti. Ça fait longtemps qu'on se connaît, tu vas quand même pas refuser. De toute façon, si tu dis non, moi j'entendrai un oui. Tu diras que je suis con, je plaiderai ton hystérie. Tu serais pas la première, passer sous mon bureau. Les filles comme toi font moins les fières quand elles veulent garder leur boulot. Alors maintenant tu vas te taire, t'en diras pas un mot. Si tu veux garder ton salaire pour nourrir tes marmots, souffle, serre les dents, comme d'hab, tu te tais. Souffle, sois prudente, marche dans le couloir d'à côté. T'es une pouffe, c'est devenu courant de l'entendre trois fois par journée. Un gentil peut devenir méchant, faut pas croire au Disney. Bats-toi fille. T'es enfin chez toi, tu te poses sur le canapé, t'allumes l'ordi, t'as un message instantané. Hey, salut l'ami, c'était vraiment très sexy, on pourrait faire connaissance, je cherche un plan pour la nuit. Quand j'ai vu ton profil, je suis tombé direct amoureux. Du coup, je t'envoie une toffe de moi, ma tub et un cœur bleu. Ce que j'ai le plus aimé chez toi, c'est ton regard de chienne qui attendrait de bouffer depuis au moins une semaine. Je suis sûre que t'es du genre à dîner étoilé, mais moi je payerai même pas pour des nems à volonté, parce que t'en vaux pas la peine, de toute façon t'es comme les autres. J'ai vu que t'avais lu, mais bien sûr tu fais la mort parce que tu te crois au-dessus. Tu t'es pris pour Rihanna quand je t'ai en bas dans ta rue. On verra ce que tu feras. Souffle, serre les dents, comme d'hab, tu te tais. Souffle, sois prudente, marche dans le couloir d'à côté. T'es une pouffe, c'est devenu courant de l'entendre trois fois par journée. Un gentil peut devenir méchant, faut pas croire au Disney. Bats-toi fille.
Pour continuer sur le chemin tortueux du consentement, ça nous paraissait indispensable de faire un crochet par le monde médical, où là aussi ça bouge. Pour ça, on est allé rencontrer une professionnelle, et bah voilà, on vous laisse écouter. Bonjour Sophie.
Bonjour.
Vous êtes sage-femme agréée, et on est venu vous interviewer aujourd'hui parce que quand on vient en consultation dans votre cabinet, il y a quelques petits indices qui nous font penser que peut-être vous avez une vision un peu aiguisée sur prendre en compte le consentement de vos patientes et vos patients. Alors, est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur les choses concrètes que vous mettez en place et en quoi elles diffèrent d'une consultation habituelle chez la sage-femme ?
Alors, je pense que la première chose qui diffère, c'est quand on rentre dans notre cabinet, on se déchausse. Donc, première chose, on laisse ce qui vient de l'extérieur devant ma porte. Et puis, on s'installe dans mon cabinet. Et donc, on va avoir toute une phase de rencontre, de discussion. Et après, lors de l'examen, en tout cas, je vais parler de l'examen gynéco. Donc, je vais demander à la personne... si elle est d'accord, bien sûr, de se déshabiller, qu'on passe à l'examen. Et on va avoir la phase avec le spéculum. Donc, je vais présenter le spéculum, montrer comment on le tient, comment on va l'ouvrir. Et je vais demander à la personne de l'installer toute seule. Donc, en expliquant comment faire et de l'ouvrir toute seule. Donc, à ce moment-là, je ne regarde pas. Après, je demande si l'examen, c'est OK pour que je regarde. Et puis, je vais faire l'examen en expliquant chaque geste que je vais faire, à quel moment je vais toucher, pas toucher. Et je vais aussi proposer de regarder le col de l'utérus avec un miroir. Après, on va retirer ce spéculum et je vais l'offrir à la patiente. Donc, elle repart avec, qu'elle le gardera dans une petite pochette et qu'elle ramènera à chaque examen gynéco. Dans une idée aussi de ne pas gaspiller et de ne pas toujours jeter ce matériel qui fait beaucoup de déchets. Donc ça, c'est le petit côté écologique. Et puis après, on va donc demander de se rhabiller au niveau du bas et on fera dans un deuxième temps l'examen, la palpation mammaire s'il y a besoin. Et ça, contrairement à d'autres lieux où on pourrait proposer à la femme de se mettre toute nue, je trouve ça très déconvenant, on va faire en deux étapes. Donc ça, c'est... voilà. Et aussi, suivant les besoins, on va recouvrir la patiente avec un drap ou une couverture. Et puis, autre chose de différent peut-être, c'est qu'on n'a pas d'étrier. Donc, les femmes ne mettent pas les jambes ou les pieds dans les étriers. On est juste positionné, jambes repliées sur la table d'examen. Ou on peut aussi faire la position sur le côté. Mais c'est peu demandé, en fait, parce que c'est pas... très bien connue par les femmes. Finalement, les femmes préfèrent être en décubitus dorsal, mais on peut aussi faire ça.
D'accord. Et du coup, en tant que professionnelle, tu nous confirmes que c'est possible de faire un examen gynéco où on peut mettre son spéculum soi-même et pas avoir les pieds dans les étriers et ça change rien à la qualité de la prise en charge.
Ça change rien et c'est beaucoup moins douloureux. Agréable, je sais pas si on peut dire ce mot-là, mais en tout cas, c'est beaucoup plus apprécié par les femmes et ça prend pas plus de temps. Et souvent, les femmes me disent merci, alors qu'en fait, c'est très simple.
Ça fait un petit peu rêver. mais alors, moi, ce que je me demande, c'est en fait comment ça se fait que ce soit si marginal comme pratique, alors que, comme tu viens de nous le dire, ça prend pas plus de temps, c'est pas plus compliqué et ça rend les consultations plus agréables pour les personnes.
Encore une fois, je pense que c'est une méconnaissance, c'est peu appris. Dans nos formations, que ce soit de sage-femme ou de gynécologue, c'est méconnu. Je pense aussi que les femmes ont leur rôle à jouer en n'acceptant pas, ou j'ai certaines patientes qui sont allées voir des gynécos en disant « je veux mettre moi-même mon spéculum » et ça a été accepté. L'ouverture, elle vient aussi de la demande des usagers. Mais en tout cas, c'est pas quelque chose de compliqué.
Et du coup, tu penses que ce serait... Est-ce que tu as des idées de levier qu'on pourrait actionner pour justement enclencher ce changement dans les pratiques et dans les mentalités des patientes et des patients ?
Encore une fois, je pense que les usagers font bouger les choses et toute cette levée sur les violences obstétricales, les violences gynécologiques, ça a fait bouger la médecine et faire dire que « Ah, il faut peut-être qu'on fasse autrement ». Donc grâce aux femmes et aux hommes dans d'autres circonstances, ça bouge. Et puis après, ben, sûrement dans nos écoles, il faudrait déjà que cette question se pose sur comment on demande plus le consentement et comment on fait les choses plus en douceur. En ayant cette croyance que ça ne prend pas plus de temps.
Ok, donc il y a des petites croyances à dénouer avant de pouvoir passer à l'étape apprentissage, peut-être.
Ah oui, il y a un gros paquet de croyances.
Eh bien, merci pour ce moment.
Merci beaucoup.
À bientôt, peut-être.
Voilà, merci Sophie de nous parler de consentement et de milieu médical. Il y a aussi plein d'autres sujets autour du consentement, notamment le consentement des enfants et de la domination adulte, du coup, qui est liée à ça. On n'aura pas le temps de le traiter dans cette émission, malheureusement, comme plein d'autres choses. Mais on va quand même gaiement passer à un petit zoom sur une actu que tu voulais nous donner, Laure.
Oui, tout à fait. Je voulais faire un petit zoom sur le monde de la fête et vous raconter que les choses évoluent dans les pratiques. Avant de continuer, je vous mets juste un mini extrait d'un documentaire qui s'appelle « Sexe sans consentement ». C'est un documentaire qui a été réalisé par Blandine Grosjean et Delphine Dilly qui aborde la question de la zone grise. On écoute.
Comment tu sais qu'une fille
elle a envie de coucher avec toi.
Beaucoup de signes. Les yeux, le regard.
Il y a une chose, c'est sûr, c'est le remettage de cheveux.
Ah ouais ? Donc,
elle remet ses cheveux, c'est un bon indice. Ça peut être un mauvais indice, mais ça peut être un bon indice.
Je dirais plutôt que c'est le... tout est dans le regard en fait, tout est dans le eye contact en fait.
Ouais.
C'est voilà quoi, un eye contact bien profond de quelques secondes, pour moi c'est. Enfin, j'arrive à traduire oui ou non quoi.
Après, si je dis par exemple à une fille, on rentre à la maison et qu'elle dit oui, après pour moi ça veut dire que c'est bon.
La fille elle te dit rien, toi non plus tu dis rien, ça vient tout seul.
Voilà, voilà. Donc, c'était pour introduire ce sujet. J'ai pu discuter avec une ancienne membre des Quatrinettes qui forme aux violences et harcèlement sexistes et sexuels en milieu festif, dont j'ai d'ailleurs une super affiche dans ma cuisine qui écrit en gros « Cramer le dance floor et le patriarcat ». Ça me réconforte beaucoup. Donc, les VHSS, comme on dit, en milieu festif, sont une réalité. Et aujourd'hui, c'est devenu un enjeu incontournable pour toutes les salles de concert de musique actuelle et festivals. C'est même en train de devenir une condition au subventionnement par le Centre National de la Musique. Ça peut paraître anecdotique, mais en vrai, moi je trouve que ça donne un peu le ton d'un changement de mentalité et qu'il y a quelque chose qui se met en place petit à petit. Il y a plusieurs assos qui ont pris le sujet à bras-le-corps, comme Consentis, Nous Toutes, Serein Sereine ou encore les Quatrinettes. Et sûrement plein d'autres que je ne connais pas. Il y a deux aspects importants. Le premier, déjà, c'est la présence d'un stand de prévention ou appelé Safe Place, qui est de plus en plus identifié par le public. On peut venir signaler quelque chose, discuter, prendre des infos, se remettre les bases du consentement, libre, éclairé, clair, enthousiaste, révocable et spécifique, et aussi les fameux 5D, déléguer, diriger, documenter, dialoguer, etc. Bon, bref, je vais pas tout détailler. Toutes ces questions du gros relou, le frotteur, la répétition de propos gênants, des mains aux fesses, ou même des situations de violence conjugale qui explosent dans cet espace de fête. Et cette personne m'expliquait qu'un autre aspect hyper nécessaire, c'est la formation des équipes, que ce soit la programmation, la billetterie, la sécurité, la direction. En fait, ça doit vraiment être une position entière de structure. L'idée, c'est pouvoir de mettre en place des protocoles et l'accompagnement des structures à se positionner face à des cas concrets. Par exemple, si tu as un protocole, tu ne fais pas répéter 15 fois le même récit à une victime et par exemple ne pas oublier le consentement de la personne que l'on prend en charge de telle ou telle façon. Ça aussi, il y a des sacrées bourdes qui peuvent être faites. Bon, ça c'est le milieu des musiques actuelles, on va dire. Et je termine juste cette petite aparté actu sur le milieu universitaire, les facs, les fêtes étudiantes, quoi. Et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a lancé à la rentrée une campagne de communication dans les établissements et sur les réseaux sociaux pour sensibiliser les jeunes à la question du consentement. Le slogan c'est « Sans oui, c'est interdit ». L'objectif clair, c'est accompagner un changement durable des mentalités et faciliter les échanges autour de la notion de consentement dans la communauté universitaire étudiante. Il y a un peu de taf.
Oui, il y a un peu de boulot. Et c'est déjà la fin de cette émission, malheureusement. Comme vous l'aurez compris, le consentement, c'est pas aussi simple que oui, c'est oui, non, c'est non. Ce serait super, mais voilà, je pense que c'est important de continuer à se poser des questions autour du consentement, encore et toujours, parce que on ne sera jamais au clair exactement là-dessus. Ça restera toujours... à certains endroits, des zones grises où on n'est pas sûr. Et voilà, n'hésitons pas à continuer à se renseigner et à en parler. Et pour vous laisser avec une réflexion, je vais vous donner une dernière question de la boîte à questions que j'ai sélectionnée, mais à laquelle je ne sais pas du tout répondre. Alors, je vous laisse y répondre vous-même. La question, c'est comment apprendre ce qu'est le consentement dans une société où il n'existe pas au niveau politique et sociétal ? Bonne réflexion à vous.
Alors, deux infos avant de se quitter. La permanence mensuelle de notre association La Panoplie se tiendra ce vendredi 3 mars. Si vous avez des questions ou des besoins concernant la vie sexuelle, le genre ou les relations, que vous avez simplement envie d'échanger sur ces sujets ou si vous manquez de ressources, on sera là pour vous accueillir de 17h à 21h à Créactif. Et à l'occasion de la journée internationale de lutte pour le droit des femmes et des personnes minorisées, ne manquez pas le rassemblement crétois le samedi 4 mars au kiosque. Ce sera de 15h à 21h, il y aura plein de choses au programme et il y aura de quoi se restaurer sur place. C'est un événement tout public, allons-y, nombreux et nombreuses.
Bon bah voilà, super tempête, c'est fini pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à nous faire des retours par ici. Je redonne l'adresse contact@lapanoplie.org. Cette émission sera rediffusée dimanche à 21h et réécoutable en podcast sur le site de Radio Saint-Ferriol avec beaucoup de références dont on a parlé. Un grand merci aux personnes qui ont participé de près ou de loin à cette émission, notamment Sophie, Juliette, Amine, Mario, Samaël. Peut-être vous voyez d'autres personnes, mais moi je vois surtout mes deux acolytes en studio, Merle et Matt. Voilà. Le mois prochain revient avec un sujet qui nous tenait particulièrement à cœur, c'est celui du porno. Bon, alors on se dit au mois prochain. Salut!
Salut!
Salut!